Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde en RTL Soir, saison 2, épisode 23. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Laurent Tessier, Brice Dugir, Greg Caradon,
présent,
et Cyprien Sinclair.
Quel faillot. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas tous été en studio au complet avec
Marie.
C'est
bon.
Ouais, c'est bon. Bon. Marie Mollet qui va au Portugal, Brice Dugir, grand reporter qui va aux États-Unis. Tout le monde est de retour donc ici à Neuilly en direct avec toute l'équipe. Voici le sommaire, vous réagissez quand vous le souhaitez, évidemment, compte Twitter, page Facebook, on défait le monde jusqu'à 20h.
Das Drobje, le vaccin Sputnik V efficace à 91%, pourrait bientôt débarquer chez nous. On vous plonge au cœur de la grande tradition de la recherche scientifique russe. Les pilotes d'avions privés de vol par l'épidémie perdraient leurs réflexes et multiplieraient les erreurs en vol. Dans On défait le monde, on va vous expliquer comment éviter des crashs en cascade. Vous découvrirez qui est le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, vous êtes dans une forme olympique.
Oui, le patron des JO de Tokyo aime les femmes, surtout quand elles se taisent.
Le billet retour quand on vous donne des nouvelles d'une info qui a disparu de l'actualité. Au programme ce soir, une histoire qui vous a peut-être marqué de braconnage en pleine région parisienne.
Oui, il y a 5 ans, un rhinocéros du zoo de Thoiry était retrouvé mort au petit matin, la corne coupée.
D'ici 20h, vos 3 infos pour briller au dîner. Une initiative solidaire et culturelle dans Marche au rêve. Et évidemment, un cadeau à gagner cette semaine. On vous offre de quoi faire des bamboches de folie quand on aura le droit d'en refaire, évidemment. On défait le monde, saison 2, épisode 23.
Allez, on y va pour l'aventure.
2021, nous voilà. On défait le monde dans RTL Soir.
Des bamboches un jour. Vivement.
Ah ouais,
je précise juste que j'ai rapporté un petit cadeau aussi aux auditeurs des États-Unis.
Vous voulez me piquer mon taf, très bien.
Non, mais bon, je me permets juste de dire ça.
Le sort de la semaine, Cyprien, on y va.
Cette semaine, événement. Séisme dans la vie politique française. Déflagration dans la course pour 2022. Le retour dans le game d'un revenant. He's back. Jean-Christophe Combalélis, messieurs dames. Mais si, Jean-Christophe, l'ancien premier secrétaire du PS, vous souvenez, qui nous a fait une petite vidéo. Alors je vous préviens, c'est sans montage et sans trucage.
Bonjour. Nous ne savons pas comment nous serons et quelle sera la situation au lendemain de cette pandémie. La seule chose que nous savons, c'est qu'elle aura changé la société, elle nous aura changé.
Mais oui, bien vu ça, Jean-Christophe, qui n'hésite donc pas à utiliser tous les moyens modernes pour lancer son nouveau mouvement pour la présidentielle.
Le blog, à la fois de ce nouveau courant, de ce nouveau club, mon blog... Jean-Christophe Combalélis.
Mon blog, Jean-Christophe Combalélis. Il a donc un blog et la musique, c'est vraiment lui qui l'a mise. Il part sur de bonnes bases pour cette présidentielle. Bref, sinon, je vous laisse méditer sur la phrase de la semaine du ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors écoutez très attentivement, concentration maximale, vous allez en avoir besoin.
Il y aura toujours, il y aura à la fois, on n'aura jamais assez de vaccins tout de suite, mais on aura toujours assez de vaccins au bon moment.
Alors.
Ah, vous l'aimez cette petite musique, hein.
On n'aura jamais assez de vaccins tout de suite, mais on aura toujours assez de vaccins au bon moment. Ouais, non, compliqué quand même ces histoires de vaccins. Surtout qu'en plus, il y en a un qui continue à vivre dans des réalités parallèles. Prenez le sujet hautement inflammable de la loi sur le séparatisme discuté à l'Assemblée cette semaine. Bon, l'insoumis Adrien Quatennens sur CNews a voulu revenir sur l'attaque de la mosquée de Bayonne en 2019, disant...
La République, c'est pas de géométrie variable. Quand un assaillant attaque une mosquée, tire sur des croyants, comme c'était le cas à Bayonne, vous n'aviez pas un ministre, pas une initiative gouvernementale.
Rien, nada, pas un ministre, que dalle. Bon, le soir même, quand même, sur place...
Le ministre, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était sur place il y a quelques minutes.
Mais bon, rien, nada, pas un ministre. Bon, le lendemain...
J'ai voulu simplement dire aux représentants de ces associations du culte musulman que nous étions évidemment à leur côté.
La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sur place. Mais rien, nada, hein. Le président aussi, il avait réagi, non.
Je veux avoir une pensée amicale et républicaine pour nos compatriotes gravement blessés à la mosquée de Bayonne. La
République, mais sinon...
Vous n'aviez pas un ministre, pas une initiative gouvernementale.
C'est fou ces mondes parallèles. Plus c'est gros, plus ça passe quand même. Enfin, sinon, retour à la vraie vie. Et ça, c'est du concret. Vous faisiez quoi, vous, mercredi soir? Non, parce que moi... Mais ce serait pas, mais oui, le générique de l'émission Les routes les plus dangereuses du monde sur W9.
Non.
Mais attendez,
présenté
bonsoir
partout.
Et bienvenue dans Les routes les plus dangereuses du monde.
Mais ça serait pas vous, Stéphane Carpentier, à la présentation de ce premier numéro des routes les plus dangereuses du monde sur W9. Mais oui, beau gosse, chemise blanche cintrée,
veste.
Un reportage sur une route dingue. Alors franchement, vous l'avez bien vendu, hein. Le grand frisson.
Hein. Des conditions météo extrêmes, jusqu'à 2 mètres de neige. Le danger est partout, des précipices.
Pom, pom, pom. La 13, un jour de neige, quoi. Tellement bien vendu que...
Le million.
Oui, les amis, vous étiez plus d'un million devant W9 mercredi soir. Alors bravo, patron. Et comme vous le dites si bien, Stéphane, à la fin de votre nouvelle émission de télé...
Soyez prudents.
Et vivement la semaine prochaine.
Vous êtes horrible.
Bravo.
Il y en aura une autre mercredi prochain.
Et on invite tout le monde à la regarder.
Et vous allez mettre la même veste ?
Non, je change.
Ah, vous savez, surprise.
Les chaussures étaient magnifiques aussi.
Ouais. Marron.
Absolument.
On défait le monde sur RTL.
Allez, soyons sérieux, c'est la grosse info de ce soir. Ça concerne la Russie, Cyprien. C'est une terre de science.
Oui, parce que si l'info se confirme officiellement, bon, c'est un peu la bonne nouvelle de la semaine, le vaccin russe Sputnik V. Alors, V pour Vladimir Poutine, dit la rumeur. Bref, Sputnik V est efficace à 91%. Un vaccin de plus, donc. Et si au début, on avait un peu regardé la Russie de haut, bah force est de constater, Laurent, que ses jugements à l'emporte-pièce étaient peut-être un peu hâtifs, puisque vous avez enquêté sur l'école et la tradition scientifique russe.
Ouais, il y a surtout un parfum de revanche pour la Russie, la reconnaissance internationale de l'efficacité de son Sputnik V contre la Covid-19. Alors personne ne les avait pris au sérieux le 11 août dernier lorsque Vladimir Poutine avait affirmé que son pays avait un vaccin. Et si l'on revient quelques années en arrière, la recherche scientifique pendant la période soviétique a été mise en avant jusqu'à la chute de l'URSS en 1991. Carole Grimaud-Potter est enseignante à l'Université de Montpellier, spécialiste de la Russie.
Les scientifiques soviétiques étaient les enfants chéris du régime. 85% des fonds étaient essentiellement attribués au domaine militaire. C'était donc la conquête spatiale, c'était le nucléaire, le militaire. Dans les années 80, c'est 10 à 30% de plus de chercheurs scientifiques qu'aux États-Unis.
Et le choix du nom du vaccin est symbolique, fait référence à cette élite scientifique. Sputnik, un hommage au premier satellite à avoir été mis en orbite en 1957 par l'URSS. Une prouesse donc scientifique. Un revers historique aussi pour le rival américain, mais cette charge financière de la recherche, un coup lors de la chute de l'URSS, et là, c'est le grand départ.
Plus d'un million, 1 500 000 scientifiques qui ont payé le prix fort. Les budgets fédéraux ont considérablement baissé et la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que les meilleurs scientifiques soviétiques sont partis à l'étranger, sont partis aux États-Unis, au Canada, où ils bénéficiaient de conditions plus avantageuses.
Oui, vous l'avez entendu, une fuite des cerveaux à ce moment-là. La prise de conscience a mis quelque temps à la fin des années 90. En 2010, Vladimir Poutine lance un gros projet de promotion de la recherche. Il met sur la table des sommes conséquentes pour la création de laboratoires d'excellence pour retrouver le niveau de la période soviétique, plus d'investissements. Et un exemple, si l'on regarde le centre d'épidémiologie qui a fabriqué le vaccin Sputnik V, il existe depuis la fin du 19e siècle. Et écoutez Florent Parmentier qui est enseignant à Sciences Po.
Il y a eu la capacité à mettre un certain nombre de ressources, en l'occurrence ceux du Fonds souverain russe, dans un institut, dans une institution qui est l'Institut Gamaleya. C'est l'équivalent un peu de notre Institut Pasteur. Et donc il y a eu à la fois une volonté politique, des ressources économiques massives qui ont pu être placées à ce moment-là.
Un centre qui a commencé à travailler il y a plusieurs années sur les vaccins, notamment de type coronavirus. Et ils ont été les premiers parmi les laboratoires à produire le vaccin, vous savez, contre la fièvre Ebola en 2015. Donc un parcours jalonné de haut et de bas pour la Russie.
Mais alors quand on vous écoute, Laurent, on peut se demander pourquoi les Russes n'ont pas été pris au sérieux au départ.
Ouais, annonce d'un vaccin au mois d'août. Vladimir Poutine annonce que l'une de ses filles a même été vaccinée, participe à l'expérience. Mais la phase 3, vous savez, qui prévoit l'essai à grande échelle avec un groupe placebo pour comparer, n'a eu lieu qu'en octobre et novembre. Donc des étapes ont été sautées, ils n'ont pas suivi le schéma classique. Et cette stratégie a même été remise en question par certains en Russie. Il y a eu des débats, comme nous le raconte Carole Grimaud-Potter.
Un des scientifiques qui avait participé donc à l'élaboration de ce vaccin a démissionné. Il n'était pas d'accord que les étapes aient été brûlées de cette façon-là.
Ouais, la campagne officielle de vaccination a démarré début décembre et selon les derniers chiffres à communiquer mi-janvier, 1,5 million de personnes ont été vaccinées en Russie.
Mais alors là, on se tourne vers vous, Brice, hein, parce que vous êtes le grand reporter du service étranger, vous êtes un peu notre spécialiste dans tout ce qui concerne la diplomatie, tout ça, le jeu des nations, bref. C'est un succès scientifique des Russes, mais est-ce que c'est également un succès diplomatique?
Alors,
du coup,
diplomatiquement, forcément, ça fait du bien à la Russie. D'abord, ça la
réconforte vis-à-vis de ses alliés, puisque le Sputnik V a été homologué dans 16 pays. Alors il y a le Venezuela, l'Iran, l'Algérie, les alliés classiques, mais aussi l'Argentine ou encore la Corée du Sud. Et une procédure est même en cours en Europe, et même vis-à-vis de la France ou de certains pays européens qui n'ont pas encore de solution. Évidemment, la Russie marque des points, mais pour pouvoir surfer complètement diplomatiquement là-dessus, il faudrait que la Russie soit en mesure de produire ce vaccin en quantité suffisante pour le distribuer en grand nombre, vous savez, à de nombreux pays, et que ça devienne une solution de masse. Mais pour l'instant, justement, la Russie ne peut pas assurer cette production industrielle pour satisfaire les besoins. Ils ne produisent déjà pas suffisamment pour leur propre pays, donc elle doit s'appuyer sur d'autres pays à l'étranger, et ça passe eh bien par des partenariats. Alors l'Inde, la Corée du Sud, le Kazakhstan, le Brésil le produisent déjà, mais il faudra plus pour que ce soit une réussite mondiale, et donc de nouveaux accords, et pourquoi pas dans ce cas avec des pays européens comme l'Allemagne l'a proposé. Donc la Russie a besoin des autres, mais cela va nécessiter des discussions, surtout dans le contexte qu'on connaît un peu tendu autour de l'affaire Navalny.
Et en Russie, est-ce que ça peut contribuer à faire taire les critiques contre Poutine et faire remonter un peu sa cote de popularité?
Eh bien selon Frédéric Parmentier, la population russe a en tête d'autres préoccupations.
C'est un moyen d'envoyer un message à son opinion publique. Pour autant, ça ne répondra pas aux questions d'après que se posent les citoyens russes, à savoir quel plan de relance, quelle perspective économique, politique et sociale après la crise Covid, et ce, à quelques mois des élections législatives qui auront lieu à l'automne. Ça fait partie des questions, effectivement, auxquelles Vladimir Poutine n'a pas encore probablement les réponses.
Un succès très relatif donc à l'intérieur des frontières russes, le social, l'économie et l'âge de départ à la retraite aussi par exemple sont plus importants aux yeux des Russes que ce vaccin contre le Covid.
Voilà, les choses sont claires, gros travail d'équipe ce soir pour cette grosse actu. Merci à tout le monde. 19h26 dans RTL Soir.
La première info pour briller, les pilotes de ligne et le loser de la semaine.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Vous le savez, il y en a trois d'ici 20h. Voici la première. Ce soir, c'est avec Marie. On parle voile et Vendée Globe.
Oui, les concurrents sont en train d'accoster un à un au Sable d'Olonne. Et à chaque arrivée, eh bien, elle nous rappelle le premier navigateur à avoir bouclé un tour du monde en bateau. Alors, vous allez me dire...
Magellan.
Magellan.
J'allais dire Tito en l'Amazon, mais apparemment il y en a eu d'autres.
Non, grosse lacune en histoire.
Grosse lacune. Magellan, le Portugais, le parti de Séville en 1519 pour ouvrir une nouvelle route vers les Moluques, hein, les îles aux épices dans les Philippines, pour trouver poivre, muscade et cannelle. Mais eh bien, vous avez tout faux, parce que j'imaginais que vous aviez la réponse.
Car
on l'oublie souvent, Magellan est mort en Malaisie en plein milieu de l'expédition. Dans une étrange bataille livrée contre les indigènes, son navire est rentré à Séville sans lui. Alors, qui est le premier à avoir accompli ce tour du monde en bateau? Eh bien, on ne le sait pas très bien. L'une des hypothèses, c'est celle de l'historien Romain Bertrand. Selon lui, il s'agirait d'un certain Enrique, un esclave acheté par Magellan à Malacca 10 ans plus tôt, qui aurait pris la direction de Lisbonne pour suivre le navigateur avant de reprendre la mer dans cette fameuse expédition. Le premier tour du monde serait donc un voyage Malaisie, mais qui ne figurerait pas dans les livres d'histoire.
Fait par un esclave en plus.
Ouais,
en plus.
C'est vrai qu'on n'a pas tellement retenu son nom.
Enrique.
Première info pour briller au dîner avec Marie Mollet ce soir. Il est 19h29.
Allume la lumière.
Allume la lumière, c'est l'éclairage dont défait le monde.
Et ce soir, on a décidé de s'intéresser aux pilotes de ligne qui ne volent plus, hein, privés de manches à cause du trafic aérien en chute libre. Et visiblement, l'avion, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie.
Oui, un article du Los Angeles Times explique que la pandémie a rouillé les pilotes et que les petites erreurs de pilotage se sont multipliées ces dernières semaines.
Alors, allons-nous tout droit vers des crashs en série? Est-ce qu'au sortir de la pandémie, ça va devenir dangereux de prendre l'avion? On a voulu allumer la lumière sur le sujet en appelant l'expert aéronautique Xavier Titelman.
Oui, on lui a posé trois questions. Est-ce que d'abord il y a vraiment tant d'erreurs commises que ça? Comment sont suivis les pilotes qui ne volent pas? Et est-ce que ce système est fiable?
Et donc première chose, quelles peuvent être ces erreurs d'inattention qu'on constate et est-ce qu'elles sont graves?
Vous avez par exemple ce qu'on appelle quand on sort les volets à une vitesse qui est un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc dans ce cas-là, on peut avoir des approches qui ne sont pas réellement stabilisées. Donc parfois on va simplement avoir un avion qui va faire une remise de gaz. Donc peut-être que le taux de remise de gaz a un petit peu augmenté.
Une remise de gaz, pardon, ça veut dire refaire un tour avant d'atterrir.
Exactement. Le passager n'aime pas ça, d'une manière générale. Donc c'est vrai que les remises de gaz, c'est souvent mal vécu parce que le passager, on ne lui explique pas pourquoi est-ce qu'on fait une remise de gaz. Quand l'avion approche, normalement, quelques kilomètres avant la piste, il doit être totalement stabilisé, la piste est en vue, tout va bien. Et si finalement on est un petit peu trop rapide, un petit peu trop haut, on va simplement recommencer, on se représente. C'est comme quand on refait son créneau en voiture. Le système est fait pour réduire ces erreurs humaines, mais même quand elles arrivent, on n'est pas sur des choses dramatiques. Éventuellement, il y a un voyant qui s'allume dans le cockpit pour dire attention, t'es un peu haut, attention, t'es un peu bas. Mais c'est pas des pannes dans le sens où on va générer un accident, évidemment, et heureusement.
Bon, déjà, ça c'est rassurant.
Il y a quand même un petit bip, hein, dans le coup,
quand même. On sait ce que font les pilotes pendant qu'ils sont privés de vol.
Bah, on a demandé à notre expert Xavier Tittleman, et apparemment, bah, ils n'ont pas intérêt à se tourner les pouces, écoutez.
Déjà, on fait en sorte qu'ils ne perdent pas leur capacité dans la mesure du possible. Les pilotes doivent obligatoirement suivre 2 formations par an, faire du simulateur de vol pour être testés avec un inspecteur derrière eux. Mais il y a un minimum légal, c'est de faire un certain nombre de vols qui sont au moins 3 atterrissages sur les 2 derniers mois, plus le simulateur de vol, l'entraînement. Justement, l'objectif, c'est de garder la main. Mais la réglementation est justement faite pour encadrer ces moments dans lesquels les pilotes peuvent pas voler. Donc de toute façon, si jamais il y avait une perte de compétences, elle implique que ce pilote n'est plus recrutable et il peut plus retourner en compagnie aérienne. Un pilote qui ne fait pas de vol, qui n'entretient pas ses qualifications, qui ne fait pas de simulateur de vol, au bout de 2 ans, il perd totalement son permis. Il doit repartir pour 1 an et demi de formation pour revenir pilote de ligne. Donc l'objectif, évidemment, pour les grandes compagnies aériennes, c'est de maintenir la compétence de leurs pilotes parce que ça coûte très très cher derrière de les réacquérir. On voit des très bons exemples en France. On sait très bien que les pilotes vont tous maintenir leur qualification parce qu'ils vont continuer à voler à tour de rôle, certes, et puis ils vont continuer à faire leur simulateur de vol quand ils le peuvent. Maintenant, on a des pays dans lesquels on a des suspicions d'une manière générale toute l'année. On a vu le crash qu'il y a eu l'année dernière au Pakistan. On s'est rendu compte à l'issue de cet accident que 40% des pilotes du pays n'avaient pas de licence de pilote de ligne en règle. Et à moins que vous fassiez des vols au Bhoutan, à Cuba ou des choses comme ça, objectivement, le risque il reste totalement nul quand vous prenez l'avion.
Mais faire s'entraîner les pilotes sur des simulateurs, ça a un coût pour les compagnies? Elles sont pas tentées de s'arranger un petit peu?
Ah, ça m'étonne pas que vous pensiez ça. Elles peuvent être tentées, mais apparemment, elles y risquent pas.
Non, il y a une réglementation, et si jamais une compagnie aérienne ne respectait pas cette réglementation, elle peut simplement passer sur la liste noire, qui aujourd'hui ne porte plus ce nom-là, mais d'une manière générale, ça veut dire qu'il y a des contrôles qui sont très réguliers, plusieurs dizaines de milliers de contrôles chaque année qui sont faits en Europe sur les pilotes. Et si jamais il y a un pilote qui ne peut pas présenter la liste de ses dernières simulations, ou alors ses certifications, il va simplement perdre sa qualification et la compagnie aérienne risque de perdre son agrément, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus avoir le droit de voler en Europe. Le risque financier est tellement plus important que personne ne prend de risque sur les questions de sécurité, que ce soit de la formation des pilotes ou de la maintenance.
Passionnant, on a appris plein de choses une nouvelle fois dans cet Allume la Lumière, nouvelle version, bien bien réussie les amis. 19h33 dans On défait le monde.
À suivre dans On défait le monde.
Une deuxième info pour briller au dîner, le loser de la semaine. Bam. Et le jeu. Ah. Restez bien avec nous, à tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la deuxième de ce soir. Tout à l'heure, c'était Magellan ou pas. Et là, c'est
football américain avec Brice.
Oui, moi, je voulais vous parler de ça. La finale du championnat américain de football, 55e finale de la NFL, championnat de foot, ce sera dimanche. Et en finale, les Buccaneers de Tampa Bay, l'équipe de la légende Tom Brady, affrontent les Chiefs de Kansas City. Alors j'aurais pu vous dire, pour briller, que c'est la 10e finale de Tom Brady, j'aurais pu vous parler de l'absence historique des grands sponsors comme Coca ou Budweiser, mais non. La vraie info concernant cette finale, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la NFL, une femme sera arbitre pour ce match, Sarah Thomas, quadragénaire, originaire du Mississippi, première femme arbitre dans cette ligue et donc première femme à arbitrer une finale. À ses débuts, on lui avait quand même demandé de ne pas se maquiller et de cacher sa longue chevelure blonde sous sa casquette, c'est véridique. Elle a refusé, elle a dit m'intégrer, oui, me renier, non, et ça n'a pas été un obstacle puisque 6 ans après ses débuts, elle sera donc sifflée pour ce match qui se jouera quand même devant environ 100 millions de téléspectateurs.
Rien que ça. Et qui va chanter à la mi-temps?
C'est le groupe The Weeknd qui est sponsorisé par Pepsi. En fait, Pepsi a contourné un petit peu le truc et Pepsi a décidé de sponsoriser ce groupe.
Et il se murmure que Daft Punk pourrait faire une apparition pour accompagner The Weeknd.
Ça, c'est dans vos réseaux d'information.
Dans mes réseaux, je suis très copain avec les Daft Punk.
Tiens, bam.
C'est la surenchère de l'info pour briller.
C'est clair. Ouais.
Moi, je sais ça.
Moi, je suis très copain avec The Weeknd. Je peux vous dire que c'est faux.
Il est 9h37.
RTL. Le loser de de la semaine.
Le grand perdant, le loser de la semaine, elle aurait pu être championne de tir à l'arc, mais elle préfère planter ses flèches dans le mille de l'actualité. C'est Marie qui vise le grand perdant, le loser de la semaine. Et là, vive le sport, c'est le patron des JO de Tokyo qui vous sert de cible.
Oui, Yoshiro Mori, éminent président du comité d'organisation des JO de Tokyo 2020, respectable octogénaire, ancien premier ministre japonais et surtout homme de courage, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Écoutez plutôt, mercredi dernier, lors d'une réunion de comité ouverte à la presse, voici ses propos.
Les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prennent beaucoup plus de temps. En fait, elles ont du mal à finir leur intervention. Les femmes ont l'esprit de compétition. Quand l'une lève la main, les autres croient qu'elles doivent s'exprimer aussi. Heureusement, les 7 femmes membres du comité japonais savent, elles, rester à leur place.
Dieu soit loué, ces femmes-là savent rester à leur place.
Couture, choix d'un tissu, puériculture.
Elles vous langent un bébé avec la dextérité d'une emballeuse de grands magasins la veille de Noël.
Bon, j'exagère un peu, car qui n'a jamais eu des mots mal inspirés, une maladresse, qu'on lui jette la première pierre? Sauf que Monsieur Mori est supposé incarner l'olympisme. Attendez, mais au fait...
C'est quoi l'olympisme? C'est le respect, la fraternité et la camaraderie. Inspirer, devenir un exemple, un modèle. La solidarité, le fait de s'encourager et de s'entraider.
C'est vrai que c'était pas très camarade hein, de la part de Monsieur Mori. En tout cas, ses propos ont provoqué... une bronca au Japon, une vague d'appels à sa démission, le premier ministre japonais sommé de prendre position, Monsieur Mori contraint de présenter ses excuses en public lors d'une conférence de presse, l'occasion idéale pour dissiper les malentendus. Il a été interrogé sur sa conviction intime. Les femmes parlent-elles trop? Voici ce qu'il a répondu.
C'est ce que j'entends dire, mais je n'en sais rien moi-même, car je ne parle pas souvent avec des femmes ces derniers temps.
Oui, on le comprend, il ne va pas s'infliger ça, elles sont toujours affaiblies. Tout ça pourquoi?
Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude.
Il n'empêche, cette sortie tombe au plus mal, car devinez l'objectif qu'avait fixé Thomas Barr, le président du Comité international olympique.
Nous aurons aussi l'égalité des sexes à Tokyo en 2020. C'est très important et nous sommes très heureux et fiers d'arriver à ce résultat en si peu de temps.
Et Yoshiro Mori lui a exclu de démissionner, mais il a subi pire châtiment. Il s'est fait gronder par sa femme et sa fille. C'est ce qu'il a fait savoir. En tout cas, ce n'est pas qu'une mauvaise anecdote. Le Japon est très en retard en matière d'égalité des sexes, classé 121e sur 153 pays selon le dernier rapport du Forum économique mondial, notamment parce qu'elle n'arrive pas à accéder au poste de responsabilité.
Bravo Marie, très bon titre de loser de la semaine.
Loser de compète là.
Il y a cadeau?
Ah oui, il y a cadeau, évidemment. On défait le monde, c'est de l'info, mais aussi un cadeau.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Monsieur Cadeau, c'est toujours Grégory Caranoni, l'inusable. Vous avez encore déniché quoi comme perle dans votre caverne magique?
Ah, les concerts vous manquent.
Ah oui.
Sortir votre valise pour partir en voyage aussi.
Oui.
Là, grâce à On Défait le Monde, vous allez pouvoir vous évader en écoutant vos meilleures playlists grâce à une super enceinte Muse de la taille d'une petite valise de cabine. Voilà pourquoi.
Ah, carrément.
Ouais, ouais. Mais comme vous le savez, c'est pas la taille qui compte car cette enceinte restitue une puissance de 150 watts. Vous êtes plutôt old school comme Brice? Pas de problème. Elle est dotée d'un lecteur compact disque.
C'est pas vrai.
Si, c'est vrai. Plus moderne comme Stéphane. Pas de problème non plus. Non, non. Elle dispose d'une technologie Bluetooth et c'est pas tout. Enfin, ou Bluetooth, comme dit Cyprien.
Et il dit Bluetooth.
Elle possède aussi deux entrées micro et une entrée pour brancher un instrument de musique. Vous n'avez pas de micro? Mais pas de problème. Elle est livrée avec un micro. Vous n'avez pas d'instrument de musique? Là, problème, je peux rien faire pour vous.
Il n'y a pas de guitare.
Non, il n'y a pas de guitare. Cette partie box de Muse s'illumine au rythme de la musique. Jetez un œil sur muse-europe.com.
Eh ben merci, c'est formidable.
Bien vendu. Hein.
Bien vendu. Vous pourriez faire les routes impossibles aussi.
Ouais. Je serai sur la musique la semaine prochaine.
Alors, mais avant, il faut répondre à la question.
J'ajoute le petit cadeau.
Brice,
c'est une tasse, un mug collector, le premier mug imprimé donc avec le visage de Joe Biden, le premier mug du nouveau président américain que j'ai rapporté de Washington.
L'enceinte, c'est mieux.
Non, mais les deux, vous aurez les deux. Vous aurez les deux si vous répondez à la bonne question qui concerne les États-Unis. Brice vous en parlait tout à l'heure. Dimanche, c'est le Super Bowl aux États-Unis. Mais c'est quoi le Super Bowl? Est-ce que c'est A, la finale du championnat de foot américain? B, l'élection de l'américain qui a eu le plus de bowl? Ou, comme son nom l'indique, est-ce que c'est un Super Bowl? Vous avez la bonne réponse? 30 de liste, 3-2-0, tiré au sort parmi les vainqueurs.
En plus, il est content de ces questions, c'est formidable.
C'est là, on l'a fait à deux, il a fallu deux cerveaux, celui de Brice et le mien.
Non, mais arrêtez de me balancer, c'est.
3-2-1-0, le standard a été accessible à partir de top maintenant.
On défait le monde sur RTL.
19h42, c'est le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on est sans nouvelles.
Et ce soir, on a choisi de vous parler d'une affaire qui avait surpris un peu tout le monde. C'était le 7 mars 2017, il y a 5 ans, vous vous en souvenez peut-être.
Cet improbable acte de braconnage au zoo de Thoiry.
Un rhinocéros, Vince, par terre, avec plusieurs balles dans la tête.
Il a été retrouvé ici, mort, les cornes tronçonnées.
Du braconnage de rhinocéros dans un zoo de région parisienne, du jamais vu. Enquête improbable, et avec le recul, Brice, est-ce que désormais on sait ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là aux eaux de Thoiry?
Eh bien non, mais les enquêteurs du parquet de Versailles cherchent toujours. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments, en tout cas pas suffisamment, pour être sur une piste sérieuse. On ne sait pas qui a tué pour sa corne ce rhinocéros dans cette nuit de mars 2017. Alors les enquêteurs de la gendarmerie ont suivi plusieurs pistes. D'abord les pistes locales, puis avec l'aide des douaniers, ils ont assuré une surveillance de personnes et de réseaux susceptibles d'écouler, de revendre ce type de corne sur un marché illégal évidemment, mais aujourd'hui, ils n'ont toujours rien trouvé.
Mais qui achète ce genre de corne et à quoi ça sert?
Alors en Asie, la poudre de corne de rhinocéros est vendue pour ses supposées vertus thérapeutiques anti-cancer. Alors ce sont des vertus qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement, mais auxquelles croient certains patients. La corne de rhinocéros, en fait, ce n'est pas de l'ivoire comme les éléphants, c'est un peu comme de l'ongle. C'est donc réduit en poudre et avalé avec de l'eau. Et cela se vend extrêmement cher puisque le kilo est estimé environ à 50 000 euros. La corne du rhinocéros tué à Thoiry pesait entre 2 et 3 kilos selon les estimations. Donc ça représente entre 100 et 150 000 euros à la revente.
Et donc aujourd'hui, on n'a pas plus d'éléments, aucun espoir.
Eh ben, très peu, clairement. Alors, dans l'enclos, un ADN a été retrouvé sur une pomme qui avait servi d'appât, mais cet ADN ne correspond à aucune personne répertoriée dans les fichiers. Les braconniers connaissaient manifestement les lieux. La voiture avec laquelle ils sont venus n'a pas été retrouvée. Et il reste beaucoup de questions en suspens. Pourquoi avoir coupé et tué ce rhinocéros alors que c'était le plus petit, que sa corne était la plus petite, et ne pas tuer les autres qui étaient pourtant juste à côté de lui? Et pourquoi 3 balles et risquer de se faire repérer par les gardiens? Voilà, ce sont des questions qui aujourd'hui sont toujours sans réponse.
Et depuis, Brice, est-ce que le parc a changé des choses pour éviter que ça se reproduise?
Oui, depuis, la direction a renforcé la sécurité du bâtiment dans lequel vivent les deux jeunes rhinocéros qui sont toujours là dans le parc. Il y avait déjà des choses mises en place, mais la surveillance a clairement est montée d'un cran. Caméras, enclos renforcés et surtout, seuls les soigneurs désormais peuvent accéder au bâtiment et aux animaux. Personne d'autre, c'est terminé pour les visites. Pour en savoir plus sur le dispositif, bah c'est impossible. Pour vous dire, une personne m'a dit au téléphone, à la Banque de France, on vous dit pas à quoi ressemble le système de sécurité. Eh bien nous, nous faisons pareil pour nous assurer de la sécurité de nos animaux. Et ça a représenté, je n'en connais pas le montant également, mais ça a représenté un investissement pour la direction du parc pour se doter de tout le système technologique.
Et au-delà même de Thoiry, est-ce qu'il y a d'autres zoos qui ont pris des mesures pour la rhinocéros?
Ben oui, parce que jamais en Europe cela ne s'était produit. Il y avait bien eu des vols de cornes en ivoire, par exemple, dans des musées ou ce type de choses, mais jamais dans un zoo européen sur un animal vivant. Alors certains zoos, pour éviter justement ou se prémunir de ce type d'attaque, ont décidé de couper la corne de leur rhinocéros. Alors je vous le disais, cela repousse, mais c'est quand même assez radical comme solution. À Thoiry, ils ont toujours refusé de faire cela pour deux raisons. D'abord pour des raisons éthiques, et puis aussi un peu par principe pour ne pas laisser justement gagner ces braconniers.
Et puis depuis, Brice, il y a un nouveau rhinocéros qui a fait son arrivée.
Oui, depuis le parc a accueilli un nouveau rhinocéros baptisé UNESCO qui est venu rejoindre Bruno en 2018. Ce sont deux jeunes rhinocéros qui ont, je crois, 4 ans tous les deux, mais je suis plus très sûr au moment où je vous parle. Je crois que c'est 4 ans tous les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bien en sécurité désormais dans le parc.
Et comme je sais que vous êtes friand des coulisses de cette émission, en fait, on a eu l'idée de ce sujet parce que Brice, le week-end dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il était à la Thoiry.
Absolument, c'est un endroit que je fréquente régulièrement.
C'est pour ça qu'on a pensé au sujet.
Mon grand-père m'avait amené là il y a 30 ans, c'est un chouette
endroit. Et puis il faut sortir les enfants.
Par exemple.
8h moins le quart, 19h46 en ce vendredi. J'espère que tout va bien. On défait le monde la suite. Avec la troisième info pour briller au dîner, à tout de suite.
On défait le monde sur RTL.
19h42, c'est le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on est sans nouvelles.
Et ce soir, on a choisi de vous parler d'une affaire qui avait surpris un peu tout le monde. C'était le 7 mars 2017, il y a 5 ans, vous vous en souvenez peut-être.
Cet improbable acte de braconnage au zoo de Thoiry.
Un rhinocéros, Vince, par terre, avec plusieurs balles dans la tête.
Il a été retrouvé ici, mort, les cornes tronçonnées.
Du braconnage de rhinocéros dans un zoo de région parisienne, du jamais vu. Enquête improbable, et avec le recul, Brice, est-ce que désormais On sait ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là aux eaux de Thoiry.
Eh bien non, mais les enquêteurs du parquet de Versailles cherchent toujours. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments, en tout cas pas suffisamment, pour être sur une piste sérieuse. On ne sait pas qui a tué pour sa corne ce rhinocéros dans cette nuit de mars 2017. Alors les enquêteurs de la gendarmerie ont suivi plusieurs pistes. D'abord les pistes locales, puis avec l'aide des douaniers, ils ont assuré une surveillance de personnes et de réseaux susceptibles d'écouler, de revendre ce type de corne sur un marché illégal, évidemment. Mais aujourd'hui, ils n'ont toujours rien trouvé.
Mais qui achète ce genre de corne et à quoi ça sert?
Alors, en Asie, la poudre de corne de rhinocéros est vendue pour ses supposées vertus thérapeutiques anti-cancer. Alors, ce sont des vertus qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement, mais auxquelles croient certains patients. La corne de rhinocéros, en fait, ce n'est pas de l'ivoire comme les éléphants, c'est un peu comme de l'ongle. C'est donc réduit en poudre et avalé avec de l'eau. Et cela se vend extrêmement cher puisque le kilo est estimé environ à 50 000 euros. La corne du rhinocéros tué à Thoiry pesait entre 2 et 3 kilos selon les estimations. Donc, ça représente entre 100 et 150 000 euros à la revente.
Et donc aujourd'hui, on n'a pas plus d'éléments, aucun espoir.
Eh ben, très peu, clairement. Alors, dans l'enclos, un ADN a été retrouvé sur une pomme qui avait servi d'appât, mais cet ADN ne correspond à aucune personne répertoriée dans les fichiers. Les braconniers connaissaient manifestement les lieux. La voiture avec laquelle ils sont venus n'a pas été retrouvée. Et il reste beaucoup de questions en suspens. Pourquoi avoir coupé et tué ce rhinocéros alors que c'était le plus petit, que sa corne était la plus petite, et ne pas tuer les autres qui étaient pourtant juste à côté de lui? Et pourquoi 3 balles et risquer de se faire repérer par les gardiens? Voilà, ce sont des questions qui aujourd'hui sont toujours sans réponse.
Et depuis, Brice, est-ce que le parc a changé des choses pour éviter que ça se reproduise?
Oui, depuis, la direction a renforcé la sécurité du bâtiment dans lequel vivent les deux jeunes rhinocéros qui sont toujours là dans le parc. Il y avait déjà des choses mises en place, mais la surveillance a clairement est montée d'un cran. Caméras, enclos renforcés et surtout, seuls les soigneurs désormais peuvent accéder au bâtiment et aux animaux. Personne d'autre, c'est terminé pour les visites. Pour en savoir plus sur le dispositif, bah c'est impossible. Pour vous dire, une personne m'a dit au téléphone, à la Banque de France, on vous dit pas à quoi ressemble le système de sécurité. Eh bien nous, nous faisons pareil pour nous assurer de la sécurité de nos animaux. Et ça a représenté, je n'en connais pas le montant également, mais ça a représenté un investissement pour la direction du parc pour se doter de tout de système technologique.
Et au-delà même de Thoiry, est-ce qu'il y a d'autres zoos qui ont pris des mesures pour la rhinocéros?
Ben oui, parce que jamais en Europe cela ne s'était produit. Il y avait bien eu des vols de cornes en ivoire, par exemple, dans des musées ou ce type de choses, mais jamais dans un zoo européen sur un animal vivant. Alors certains zoos, pour éviter justement ou se prémunir de ce type d'attaque, ont décidé de couper la corne de leur rhinocéros. Alors je vous le disais, cela repousse, mais c'est quand même assez radical comme solution. À Thoiry, ils ont toujours refusé de faire cela pour deux raisons. D'abord pour des raisons éthiques, et puis aussi un peu par principe pour ne pas laisser justement gagner ces braconniers.
Et puis depuis, Brice, il y a un nouveau rhinocéros qui a fait son arrivée.
Oui, depuis le parc a accueilli un nouveau rhinocéros baptisé UNESCO qui est venu rejoindre Bruno en 2018. Ce sont deux jeunes rhinocéros qui ont, je crois, 4 ans tous les deux, mais je suis plus très sûr au moment où je vous parle. Après, c'est 4 ans tous les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bien en sécurité désormais dans le parc.
Et comme je sais que vous êtes friand des coulisses de cette émission, en fait, on a eu l'idée de ce sujet parce que Brice, le week-end dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est à la Thoiry.
Absolument, c'est un endroit que je fréquente régulièrement.
C'est pour ça qu'on a pensé au sujet.
Mon grand-père m'avait amené là il y a 30 ans, c'est un chouette endroit.
Et puis, il faut sortir les enfants.
Par exemple.
Il est 8h moins le quart, 19h46 en ce vendredi. J'espère que tout va bien. On défait le monde la suite. Avec la troisième info pour briller au dîner, à tout de suite.
On défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est Cyprien qui s'en charge de cette troisième info pour briller au dîner en ce vendredi soir.
Et vous savez, en France, on a beaucoup parlé de l'éventualité de mettre en place un passeport vaccinal. Eh bien, il y a un pays dans le monde qui a décidé de s'ouvrir aux touristes, mais seulement s'ils sont vaccinés. Pas de vaccin, pas d'entrée, et là ça rigole pas. Faut produire des documents certifiant que vous avez été vacciné et surtout que vous avez reçu la seconde dose au moins 2 semaines avant d'arriver. Faut aussi avoir un test PCR de moins de 72 heures et ce pays, le seul au monde, je vous le rappelle, à avoir mis en place cette mesure, c'est... C'est l'archipel des Seychelles dans l'océan Indien. Le tourisme y représente 65% de son économie. Fallait bien rouvrir d'une façon ou d'une autre. Du coup, cette idée du passeport vaccinal. Et cette idée intéresse beaucoup la Grèce. Donc si vous avez prévu de partir en vacances en Grèce cet été...
À suivre.
Voilà.
Elle sort d'où la musique là?
C'est Bienvenue aux Seychelles, c'est un jeune artiste local.
D'accord.
Que j'ai trouvé sur internet. J'ai adoré. Ça m'a donné l'impression de voyager, oui. Attendez, l'eau à 26 degrés, 30 degrés, le soleil, tout le monde vacciné, pas de coronavirus, ça fait rêver quand même. Je vous rappelle qu'on a couvre-feu à 18h.
C'est bon, c'est
qu'on est en plein mois de février, il fait nuit.
Coupé.
Merci. Merci pour le Julien Doré.
19h49.
Marche ou rêve?
Marche ou rêve, dans Défait le Monde, c'est quand on met en valeur vos projets, vos initiatives.
Et ce soir, Laurent, une très belle initiative.
Oui, une aventure collective. Nous sommes avec Agathe de Menton, fondatrice de l'association du Soleil dans ma mémoire. Bonsoir Agathe.
Bonsoir.
Qui est
merci.
En studio avec
merci,
nous en plus.
Merci, en studio, voilà, ça c'est la classe.
Avec plaisir.
Alors depuis plusieurs mois, vous êtes lancée avec une dizaine d'adolescents dans une magnifique aventure, monter une comédie musicale sur le thème de l'écologie. Racontez-nous comment s'est créé ce projet.
Alors ce projet, déjà, est centré sur la jeunesse. Le départ, le moteur du réacteur, c'est d'apporter à la jeunesse les moyens de s'exprimer. La jeunesse, c'est quand même l'avenir de notre société. Donc c'était très important pour moi, quand j'ai monté cette association il y a 11 ans, de me battre pour cette cause, les jeunes. Voilà, je trouve que c'est important de leur apporter les moyens de prendre confiance en eux, de résister à l'ambiance dégradée dans laquelle certains se situent. Et donc, depuis 11 ans, en fait, on a créé des ateliers de comédie musicale à destination de ces jeunes adolescents qui, souvent, n'ont pas accès aux pratiques artistiques. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans le monde du spectacle, en fait. Hein. Je suis consultante en marketing, je suis professeur-chercheur dans une école de commerce, bon. Mais j'ai toujours pratiqué, depuis toute petite, le piano, la danse, le chant, j'ai fait de l'improvisation théâtrale. Et je sais que c'est extrêmement important pour construire sa personnalité, pour s'équilibrer dans la vie, pour prendre confiance en soi. Et donc j'ai choisi pour mon combat pour cette jeunesse de s'appuyer sur le spectacle vivant. Donc voilà.
Et d'où viennent tous ces adolescents?
Alors les adolescents, donc là effectivement le 26 mai prochain, on va monter sur la scène du Casino de Paris avec 19 adolescents qui viennent à la fois du 20e arrondissement de Paris et de Montfermeil aussi. On a des jeunes filles qui sont très talentueuses en termes de danse, qui viennent des quartiers populaires de Montfermeil. Et ces adolescents répètent depuis plus d'un an, deux fois par semaine. Voilà. Et là, malgré le contexte, la crise sanitaire, ils lâchent rien, ils continuent, ils sont au top. Donc moi, je suis extrêmement fière d'eux. Et puis, on a vraiment hâte d'être le 26 mai.
Et ces filles et garçons, c'est mix?
Alors, il y a un garçon.
Et vous voyez évoluer leur comportement au fil du travail artistique? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'émancipent, ils se lâchent, ils sont mieux, enfin...
Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'association, hein, depuis le départ. C'est de pouvoir donner à ces jeunes la possibilité de prendre confiance en eux, de s'équilibrer, de devenir créatif. Et je pense il y a deux petites sœurs justement là dans le projet qui sont arrivées et qui étaient très très timides au départ, et puis là on les voit qui s'épanouissent, qui prennent part aussi à la création de la collectivité, parce qu'ils ont un peu écrit les dialogues du spectacle, et donc oui, on les voit vraiment évoluer, prendre confiance en eux. Les parents nous le disent aussi, et puis je travaille beaucoup avec les animateurs de quartier, avec les centres sociaux, qui nous disent on n'a jamais vu des jeunes aussi ponctuels, ouais, aussi fidèles à un atelier. Donc voilà, ça
et
c'est.
Et ça tombe bien, nous sommes en ligne avec l'une des participantes, Soukaina. Bonsoir Soukaina.
Bonsoir.
Vous avez 15 ans, alors quel rôle allez-vous jouer dans cette comédie musicale?
Dans cette comédie musicale, je joue le rôle d'Anne Coqui. Et donc en fait, c'est un personnage très extravagant, elle est sûre d'elle. Elle est gentille, on l'aime beaucoup malgré ses manières, etc. Mais elle est très sympathique.
Les ateliers chant et danse se passent bien, c'est pas trop dur?
Bah, en fait, avec les répètes, c'est beaucoup de travail, donc forcément, c'est forcément un peu dur, mais sinon, ça passe, ça va.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ça? Est-ce que c'est une sensation que vous n'aviez jamais connue auparavant? Comment vous ressentez cette expérience?
Ben oui, bien sûr, c'est une expérience du coup qui est nouvelle pour moi, parce que c'est la première fois où je peux vraiment... où je joue en fait dans une comédie musicale. Comme elle disait Agathe, on prend confiance en soi, et c'est vrai que moi je fais partie de ces personnes qui au début étaient vraiment timides, et là en fait clairement ça m'a beaucoup enrichi et ça fait ça nous fait ouvrir des portes, quoi.
On a du mal à imaginer que vous étiez timide avant.
Ça marche bien, super, ça marche bien. Je vous propose justement d'écouter un extrait de la comédie musicale Aquaville.
Mais ils sont pas chanteurs à la base?
Non, non, alors là c'est le clip, ah c'est ouais, le clip qu'on a réalisé, on a fait chanter, c'était au départ, hein, avant que, c'était au tout début de l'histoire.
D'accord.
Il y a deux ans, c'était un petit teaser. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à remercier le créateur du spectacle, l'artiste Rodi Julienne, qui est vraiment un immense artiste, qui écrit et compose des comédies musicales et qui nous a fait ce magnifique cadeau de nous offrir cette œuvre à Aquaville. Et quand il nous a offert cette œuvre, j'ai trouvé que c'était ultra cohérent avec le projet parce que ça parle d'écologie. Et l'écologie, c'est le sujet des jeunes. Donc pour moi, c'était vraiment très, très cohérent. Alors il nous suit, il est très bienveillant, il est un peu derrière. Il va nous recevoir dans son studio d'enregistrement aussi la semaine prochaine pour enregistrer les jeunes. Donc voilà, on est vraiment ravis, merci beaucoup.
26 mai, c'est super, on suivra ça.
26 mai.
Et on espère qu'il y aura du public. Ouais.
Oui. Alors il y aura du public aussi peut-être grâce à notre parrain, l'humoriste Tristan Lopin qui nous suit aussi, que je voulais saluer, remercier ce soir. Parce que voilà, il communique aussi sur le projet, merci beaucoup.
Et on suivra tout ça, ouais, hein, parce que
on défait le monde, on suit toutes les histoires.
C'est chouette d'en parler avec vous, merci beaucoup.
Merci à vous.
Agathe, et puis on fait un petit coucou à Soukaina. Bonne soirée.
Merci,
bon
Soukaina.
Bonne soirée, merci.
On a un gagnant, une gagnante, on a quoi ce soir?
On a un gagnant.
Ah bah ouais.
Il s'appelle Philippe. Il appelle de Dijon en Côte d'Or. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Philippe. Alors avant quand même de pouvoir repartir avec cette platine, enfin cette enceinte et puis le cadeau de Brice, le mug Joe Biden, la question c'était qu'est-ce que le Super Bowl? Alors?
Football américain.
Bien joué.
Bravo.
Bravo Philippe. Donc vous gagnez un mug avec à l'effigie de Joe Biden,
le collector.
Collector. Et vous gagnez une enceinte pour mettre de la musique, ça marche même avec des CD. Vous avez encore des CD ou pas, Philippe?
Impeccable.
Vous avez des CD ou pas?
Oh oui, beaucoup.
Ah bah tant mieux.
Ouais, voilà.
C'est un copain de Brice Dugénie. Voilà.
Un amateur de musique.
Merci de votre fidélité, Philippe.
Merci à vous.
Philippe, à très bientôt.
Et continuez, ne changez rien.
Bah, merci.
Merci beaucoup. Merci.
Même Brice.
Surtout Brice. On se retrouve le vendredi prochain, les amis.
Ah oui, on aura un invité spécial tout au long de l'émission.
Oui. Ouh là là.
Maxime Sorel. Vous savez, on l'a suivi pendant tout le Vendée Globe régulièrement. Bon, bah, il a fini par arriver. Dixième, bravo.
On lui posera la question sur Magellan, là.
Il nous fera le plaisir d'être avec nous pendant toute l'émission. On va se régaler.
À vendredi prochain, à toute l'équipe. Bravo. Le podcast arrive très vite, évidemment, sur l'appli RT. Et l'actualité à 20h. À tout de suite.
Allez. On défait le monde dans RTL Soir.
Donc vous gagnez un mug avec à l'effigie de Joe Biden,
le collector.
Et vous gagnez une enceinte pour mettre de la musique, ça marche même avec des CD. Vous avez encore des CD ou pas, Philippe?
Impeccable.
Vous avez des CD ou pas?
Oh oui, beaucoup.
Ah bah tant mieux.
Ouais, voilà.
C'est un copain de Brice Dugénie. Voilà.
Un amateur de musique.
Merci de votre fidélité, Philippe.
Merci à vous.
Philippe, à très bientôt.
Et continuez, ne changez rien.
Bah, merci.
Merci beaucoup. Merci,
même Brice.
Même Brice.
Surtout Brice.
On se retrouve le vendredi prochain, les amis.
Ah oui, on aura un invité spécial tout au long de l'émission.
Ouh là là.
Maxime Sorel. Vous savez, on l'a suivi pendant tout le Vendée Globe régulièrement. Bon, bah, il a fini par arriver. Dixième, bravo.
On lui posera la question sur Magellan, là.
Il nous fera le plaisir d'être avec nous pendant toute l'émission. On va se régaler.
À vendredi prochain, à toute l'équipe. Bravo. Le podcast arrive très vite, évidemment, sur l'appli RT. Et l'actualité à 20h. À tout de suite.
Allez. On défait.